J'oublie pas d'enregistrer, voilà.
Alors, pour ceux qui nous visitent, on est dans une étude suivie dans 1 Corinthiens, vous le savez pour les plus fidèles d'entre nous, qui sommes là tous les dimanches. Donc, on étudie la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. On est toujours au début, plus ou moins de l'épître, on est au chapitre 6 à présent, et on va lire les versets 12 à 20. « 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Et avant de commencer, je vais prier. Seigneur, c'est une belle lettre que tu as écrite il y a plusieurs siècles de cela. Tu l'as adressée précisément à des chrétiens qui étaient basés à Corinthe. Nous, nous sommes des chrétiens basés à Nice, et elle nous parlera aussi, Seigneur. » Il y a des amis chez nous ici de Palaiseau, de Brest, de Carros d'ailleurs, de Fréjus-Draguignan. Seigneur, nous sommes tous des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et nous sommes venus nous présenter devant toi pour que tu nous parles, Seigneur. Et que cette lettre soit aussi pour nous. Alors parle-nous à présent, nous t'en prions par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, voici ce que la parole a pour nous ce matin. Tout m'est permis... mais tout n'est pas utile. Alors déjà, rien que là-dessus, on pourrait faire un bon moment. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alors, Paul commence, verset 12, par une première affirmation. C'est un verset qu'on devrait peut-être apprendre par cœur si on ne le connaît pas. C'est « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas rendre esclave par quoi que ce soit. » Voilà un beau message pour une vie chrétienne en ordre. Appartenir à Christ, oui, c'est être libre. Car on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. C'est ce qui fait toute la différence. Alors, quelle différence déjà entre la loi et la grâce ? Mais lorsque Dieu s'est attaché le peuple d'Israël, il leur a donné des directives. Il leur a dit, voici, c'est comme un cadre, et voici le cadre à ne pas dépasser. Voilà. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Toute une liste de restrictions, c'était pour le peuple à ce moment-là, la loi, c'est un cadre à ne pas dépasser. Les chrétiens sont sous la grâce. Alors pour essayer de simplifier, la grâce, c'est tout ce qu'on peut faire à l'intérieur du cadre. Voilà, c'est tu feras ceci, tu feras cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. La différence, c'est qu'il y en a un, c'était beaucoup de restrictions, sous la grâce, c'est beaucoup de permissions. C'est la pédagogie de Dieu, c'est comme nous faisons nous avec les enfants, quand ils sont tout petits, en très bas âge, la première pédagogie qu'on a avec les bébés, c'est leur dire « Attention, touche pas l'électricité. Attention, le verre, tu vas le faire tomber. Attention, ne mets pas ça dans ta bouche. » Au départ, l'enfant est trop petit pour comprendre des choses très très complexes, donc c'est des choses très simples, on lui dit « Voilà ce qu'il ne faut pas faire. » Et après, quand ils grandissent, on lui dit « Voilà, mange des fruits et des légumes parce que c'est bon, parce qu'il y a des fibres, parce que c'est bon pour ta croissance, des vitamines, etc. » Et la pédagogie de Dieu, c'est un peu la même chose. C'est au début de la relation, c'était « voilà ce que tu ne dois pas faire ». Et après, quand la relation se développe, « voilà, tu peux faire ceci, ceci, ceci ». Alors, c'est une image, mais la Bible en prend aussi une autre. C'est les deux enfants d'Abraham. Abraham a deux fils pour les plus connus, il a eu des filles, etc. Mais Isaac et Ismaël. Regardez avec moi, regardez dans Galates, chapitre 4, verset 22. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abraham, il avait eu une promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, tu auras une descendance. Le problème, c'est que sa femme, Sarah, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, les années passent, etc. Et puis, rien ne change. Alors, sa femme, Sarah, l'impatiente, va dire, bon, on va faire autre chose. Tu vas prendre la servante, tu vas avoir un enfant avec elle. Comme ça, on aura une descendance. Oui, ça marche. Parce que biologiquement, c'est possible. Donc, elle n'était pas stérile, elle était féconde. Donc, il y a un enfant qui est né. Ismaël, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était Isaac. Ismaël, c'est la réponse de l'homme à ses problèmes. L'homme à ses problèmes, il répond, Ismaël. Mais Isaac, c'est la réponse de Dieu à ses besoins. Tu as besoin d'une descendance, c'est Dieu qui pourvoit. Et regardez ce que dit Galates, chapitre 4, verset 22. On va voir ici la grâce et la loi. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. La servante, c'était une esclave. Hein. Elle faisait les deux, en fait. Elle était servante, mais elle avait un statut d'esclave. Donc, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, nous dit la Bible, c'est une image, en fait. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, etc. Je ne poursuis pas plus loin. Mais ici, on a deux images. On a la descendance d'Agar, c'est la loi, ça symbolise la loi, l'esclavage, le péché. Et on a ensuite Isaac, alors qui représente justement la grâce, les permissions, etc. Est-ce que Marina, tu veux bien projeter le PowerPoint ? J'ai simplifié sur une image pour qu'on comprenne bien, c'est à peu près clair, j'espère, mais en fait, on va résumer ici. Des fois, avec une image, on peut résumer tellement de mots, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai. Parce que si on n'est pas familier avec la Bible, c'est un peu compliqué. Loi, grâce, Isaac, Ismaël, Agar, j'ai pas tout compris. Voilà, tu le mets en diaporama, ça doit se lancer tout seul. Je crois que c'est F7, le raccourci sous Windows. Si tu fais F7, je crois que ça va lancer le diaporama. F7 sur le clavier. Yo, voilà, super. Voilà la différence entre la loi et la grâce. C'est très simple. Hein. Agar, à gauche, elle symbolise la loi, donc elle a le statut d'esclavage, et ça conduit à la mort. Voilà, la loi conduit à la mort. Parce que c'est la connaissance du péché. Sarah, c'est la grâce. Donc la grâce, ça conduit à la liberté et à la vie, tout simplement. Et ce verset nous dit dans Jean 1, 17, « En effet, la loi nous a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Alors nous, chrétiens, amen, on se situe où, là? Normalement, on n'est plus sous la loi, hein, sauf si vous n'êtes pas encore au Seigneur, vous êtes encore sous l'esclavage, hein, dans le... Si vous avez cette morale qui, de temps en temps, vous dit « je ne vais pas faire ça », etc., vous êtes sous la loi et vous êtes condamné à l'esclavage et à la mort, la servitude. Mais les chrétiens, ils sont à droite. Ils sont sous la grâce. C'est la liberté et c'est la vie. Mais quand il a dit tout ça, Paul, il dit « d'accord, les chrétiens sont libres, on est libres. » Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi. Voilà. Et c'est là où il en vient ce matin, il dit « voilà, tout m'est permis, mais tout ne me convient pas, tout n'est pas utile. » Si nous sommes maintenant à Christ, on ne doit pas revenir à ce qui nous dominait autrefois. Autrefois, on était sous l'esclavage.
Alors, l'image qui nous vient souvent, c'est la cigarette, l'alcool, les discothèques, etc. Mais ça peut être aussi la calomnie, le fait de parler, voilà, de parler mal des autres, la jalousie, toutes ces mauvaises choses qui nous caractérisaient avant, qui nous rendaient esclaves, hein, qui nous torturaient. Hein. Là, tout ça, on doit abandonner. Quand on est sous la grâce, on ne doit pas revenir à tout ça, on doit vraiment se débarrasser de tout. Donc Paul, voilà, c'est des raisons pour lesquelles Paul il fixe des limites. Il dit attention, si vous êtes chrétien maintenant, vous êtes donné au Seigneur, tout vous est permis, c'est vrai, mais tout ne vous est pas utile. Alors, pour nous, ça doit dire quoi ? On doit se dire, bah, quand je fais quelque chose, si tout ne m'est pas utile, est-ce que ça m'est vraiment utile ? Par exemple, je suis en vacances, je vais choisir mon livre pour les vacances. Je pars 15 jours en vacances, je vais choisir un livre. Entre le dernier polar à la mode, criminalité, machin, 2.0, je sais pas quoi, et puis un bon livre chrétien, tout m'est permis, hein. Je peux lire les deux. Hein. Mais est-ce qu'il y en a un des deux qui va m'être vraiment utile ? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va m'être plus utile que l'autre, finalement ? C'est peut-être un choix à faire. Hein. Je vais regarder la télé ce soir. Il y a des programmes télé. Est-ce que ça m'est vraiment utile, quoi ? Est-ce que je ne vais pas me souiller à regarder ces trucs-là ? Franchement, je n'ai même pas besoin de citer les programmes, vous les connaissez. Quand je fais quelque chose, est-ce que c'est utile pour moi ? Est-ce que ça ne va pas me souiller ? Est-ce que ça ne va pas être une occasion de chute pour les autres ? Est-ce que si je fais ça, est-ce que je ne suis pas un piège pour un frère ou une sœur ? Alors, je ne sais pas, on pourrait dire quoi ? La tenue vestimentaire, peut-être, je ne sais pas. Je vais y venir après sur la tenue vestimentaire. Mais voilà, il faut se dire aussi, quand je fais ça, s'il y a un chrétien qui n'est pas très affermi dans mon entourage, est-ce que c'est bon que je fasse ça ? Devant mes enfants, par exemple, est-ce que c'est bon que je fasse ça ? Posons-nous la question, parce que la Bible nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Donc, des fois, on pourrait avoir tendance à se dire « Sous la grâce, youpi, on fait ce qu'on veut. » Non, non, il y a des limites. « Tout ne m'est pas utile, et je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » On est chrétien, mais on peut encore tomber dans le piège. Alors, j'ai cité la cigarette, l'alcool, tout ça. Bon, j'espère qu'on est lavé de tout ça, mais il y a d'autres pièges hein, qui sont beaucoup plus sournois. Hein. La musique. Oh, avant ma conversion, j'écoutais beaucoup de musique. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. À tel point que je m'enfermais dans la chambre et je voulais... Ah, mes parents, il ne fallait pas qu'ils frappent à la porte. Hein. Musique. Je suis dans mon monde. Est-ce que ça ne peut pas être une tendance, des fois, d'être trop prisonnier de ce genre de choses ? Peut-être les plus jeunes d'entre nous, peut-être. Ça peut être un piège pour eux. Les jeux vidéo. Ah... Quand j'étais ado, avant ma conversion, j'avais la musique et les jeux vidéo. Hein. Je peux vous dire que le samedi après-midi, si ça frappait, je ne répondais même pas. Quoi. Je me souviens de parties de jeux vidéo, j'y passais 6 heures, 7 heures. Je voulais aller au bout, et jamais été au bout. Je suis toujours mort avant la fin. Et voilà, quel temps perdu, les amis. Quand je me dis aujourd'hui, quand je pense au temps qui me manque aujourd'hui, comment je l'ai gâché avant. Tout ça, ça peut être de l'esclavage. Hein. Le shopping. Il y en a le shopping, c'est une addiction. Hein. Pareil qu'il y en a, c'est compulsif. Hein. Ils sont stressés, là, il faut qu'ils achètent des trucs. Là. Il faut qu'ils aillent faire du shopping. Il faut qu'ils aillent acheter, il faut qu'ils aillent dépenser. Il paraît qu'il y a une, je sais pas, c'est un déstressant pour certains. Il faut que j'achète un truc, là. Ça peut pas être un piège, ça, des fois. Ça peut pas être un esclavage, là, d'avoir un placard rempli de chaussures. Vous n'êtes pas obligé de répondre, je ne citais personne, je ne connais personne. Mais simplement, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de chaussures dans un placard ? Posons-nous la question. Quoi. Tout est permis pour ceux qui sont à Christ. Mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Est-ce qu'on a bien le contrôle de toutes ces choses dans nos vies ? Voilà la première question. Mais Paul, il va mettre vraiment le doigt sur quelque chose. C'est un vrai problème à Corinthe. Et on le voit au verset 13. Si tu veux revenir, Marina, sur... voilà. 1 Corinthiens 6, 13. Il va mettre un petit peu l'emphase sur quelque chose parce qu'il y avait un vrai problème à Corinthe. Ils lui ont posé des questions, donc il va répondre. Mais il sait qu'il y a des problèmes, donc il va traiter tous les sujets. Hein. Donc on lui a posé des questions sur les aliments. Donc il commence à préparer sa réponse, il va développer au chapitre 8, on le verra bientôt. Donc il leur dit, bon, les aliments, ça c'est pour le ventre. Hein. Le ventre, c'est pour les aliments, ça Dieu va tout détruire, donc vous inquiétez pas pour ça. Mais le corps, c'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Ils avaient un vrai problème avec ça. Hein. La débauche, il y avait vous rappelez, des cas d'inceste dans l'église, etc. Il y avait un homme qui avait pris la femme de son père, sa belle-mère, etc. Donc, il y avait un vrai problème d'immoralité sexuelle dans cette église, cette assemblée à Corinthe. Ben, c'est toujours le cas aujourd'hui, mes amis. Je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que la sexualité, le sexe dans le monde, c'est encore un vrai problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la sexualité, c'est un peu, on a l'impression, ce qui dirige un peu le monde parfois, quand même. Hein. Alors, on ne le voit pas toujours. Il y a des choses qui sont très... Évidemment, c'est souvent invisible, mais on voit que c'est ce qui domine quand même beaucoup de choses. Je regardais un petit peu, il est estimé que le marché mondial de l'économie du sexe, ça représente 50 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent ? Beaucoup. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ? Pas du tout. Alors, pour vous donner une image, 50 milliards de dollars, c'est comme si vous aviez mis 2 millions de dollars de côté sur un compte d'épargne chaque mois, depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Vous faites 50 milliards divisé par 2019, divisé par 12 mois, et vous tombez sur la somme de 2 millions. Je ne sais pas si vous arrivez à épargner 2 millions de dollars par mois. Sachez que dans 2019 ans, vous aurez le même montant, c'est-à-dire 50 milliards. C'est monumental. C'est l'équivalent du PIB du Sénégal, je crois, pour vous donner une idée. Hein. Une recherche sur quatre dans Google est liée à cette thématique. Et on comptabiliserait jusqu'à 300 000 visiteurs par seconde sur ce type de site. Autant dire que ça draine beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un business bien lucratif. Hein. Si vous voulez gagner de l'argent, drogue, prostitution, jeu, criminalité, c'est ce qui marche. Hein. Et certainement que le sexe est peut-être ce qui est le péché qui est capable d'asservir le plus l'être humain, de le rendre esclave. Vraiment. En tout cas, on le voit dans la société. Hein. C'est pourquoi Paul dit au verset 18... On va regarder ensemble. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Les aliments, tout ça, c'est pas grave, les péchés hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, il pêche contre son propre corps. Et là, il a encore plus un problème. Pourtant, la sexualité, les amis, c'est pur. Hein. Attention, hein. C'est dans le plan de Dieu. Hein. Dès la Genèse, Dieu institue le mariage et les relations sexuelles entre un homme et une femme. Donc le plan de Dieu est pur, il est saint, il est bon, il est parfait. Mais dans un certain cadre, la sexualité est autorisée. Dans un certain cadre. Regardez, Genèse 2, versets 22 à 25. Alors j'espère que vous connaissez ce passage. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça c'est le plan de Dieu et le plan de Dieu est pur mes amis, il est saint, il est bon, il est divin, il est parfait. Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils s'unissent et qu'ils vivent ensemble. Son plan est simple, un homme, une femme, et voilà le cadre dans lequel le Seigneur a placé la sexualité. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà le cadre à ne pas dépasser, et voilà ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Remarquez bien, on avait vu ça pour ceux qui avaient fait l'étude biblique, regardez bien les étapes, c'est l'homme quitte son père et sa mère, après il s'attache à sa femme, et après ils deviennent une seule chair. Et le monde aujourd'hui, il a gardé deux ou trois des étapes, mais surtout, il a mis la dernière en premier. Avant, il met la chair. Après, on quitte peut-être papa-maman et on s'installe ensemble, on se marie et tout. Mais d'abord, l'ordre est inversé. D'abord, la chair en premier. C'est là où il y a un vrai problème. Ce court verset-là, il répond à de nombreuses questions de société. Là, on peut clore des débats très rapidement. Si on garde le plan divin, c'est pas d'union sexuelle hors mariage. Ici, on est bien dans le cadre d'un homme qui s'attache à sa femme. Donc, ils fondent un foyer ensemble. On n'en sort pas, quoi. On ne fait pas des conquêtes, etc., pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ici, c'est relation avec un homme qui s'attache à sa femme. Il n'y a pas de place pour l'homosexualité dans ce verset. N'en déplaise à nos contemporains. On ne peut pas trouver. C'est impossible. On peut tordre la Bible dans tous les sens. On ne trouvera jamais. Hein. C'est très clair. Est-ce qu'ici, on peut trouver de la place pour la polygamie? Bah non. C'est verrouillé. Hein. Terminé. Hein. Pour la fornication, on l'a vu un peu, ben non, une seule femme. Est-ce qu'il y a de la place pour le divorce? Non. Le Seigneur dit pas, ils deviendront une seule chair jusqu'à ce qu'ils en aient assez et puis que Elle le fatigue ou elle en est marre de lui. Non, il n'y a pas de limite de temps là. C'est ad vitam aeternam. C'est clair, c'est jusqu'au bout. Il y a de la place pour rien, mes amis. On peut clore tous les problèmes de société ou les questions qui peuvent se poser. Hein. Tout est là hein, dans la Bible. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, pour faire simple, Dieu bénit la sexualité, mais les seules relations sexuelles autorisées par la Bible, c'est entre un homme, une femme, mariée. C'est très clair ici. Et qui ne sont pas de la même famille. Important de le dire parce que c'était le problème à Corinthe et c'est pour ça que Paul avait développé en disant voilà, on voyait bien que dans le Lévitique, notamment, il y avait toutes les restrictions, tu ne prendras pas la femme de ta sœur, ta mère, ta belle-mère, etc. Tu ne soulèveras pas la couche de ton père, on avait vu tout ça. Donc, un homme, une femme, mariés, voilà le plan de Dieu. Donc, Paul leur dit, attention, dès que vous sortez du cadre, ça s'appelle de la débauche. Et ça va vous mettre en esclavage. Ne revenez pas sous le seuil de l'esclavage, vous êtes libre à présent. Il dit plutôt, ayez une communion intime avec le Seigneur. Voilà. Savez-vous pas que quand un homme s'attache à une prostituée, devienne une seule chair? Vous ne savez pas ça? Donc, soyez un avec le Seigneur pour être un seul esprit avec lui. Regardez 19 et 20, versets 19 et 20 de 1 Corinthiens 6. On avance dans ce passage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre ce matin. Il dit, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. N'allez pas le souiller. Voilà, c'est le Seigneur, il vous l'a donné à un grand prix. Attention. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà une bonne réflexion. Voilà, c'est une belle image. Donc, si le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est quoi la conséquence? C'est qu'on doit en prendre soin. Le Seigneur nous a donné un corps. À nous maintenant de l'entretenir, d'en prendre soin et de ne pas le salir. C'est comme l'église. Vous savez, l'église, le plus important, ce n'est pas la salle. Qu'est-ce qui est important dans l'église? C'est vous, les amis. C'est les fidèles, c'est les âmes, ça, c'est le plus important. Mais le Seigneur nous donne une salle. Alors, allez, merci Seigneur, on va en prendre soin quand même. Quoi. Cette salle, elle est lavée régulièrement. On la lave, cette salle, on la nettoie. Merci à Mila, d'ailleurs, elle n'est pas là. Merci à Mila, toutes celles qui s'investissent dans le ministère du ménage. C'est un très beau ministère, un ministère glorieux, parce que ministère d'humilité. Cette salle, elle est propre, et vous appréciez de la trouver propre. Elle est bien décorée. Merci Ruth, qui décore aussi. Et puis, toutes celles et ceux qui participent, qui donnent aussi parfois de l'argent pour ça. Hein. La salle, elle est propre, elle est agréable, décorée. Et puis, quand il y a un problème dans la salle, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un néon qui saute, on vient, on répare. Merci Luca, qui n'est pas là non plus, décidément. Qui est en charge du bricolage, ceux qui lui donnent un coup de main aussi. La salle, ce n'est pas l'essentiel, les amis, on est d'accord. Mais Dieu nous la donne, donc on en prend soin, on l'entretient. Mais le corps, c'est comme la salle. Ce n'est pas l'essentiel, l'essentiel, c'est l'esprit, hein, c'est ce que dit Paul. Mais quand même, on doit en prendre soin. Alors, est-ce que vous prenez soin de votre salle? Est-ce que vous la gardez propre, la salle? Je sais que vous prenez une douche tous les jours, hein, ça, c'est pas le problème. Hein. Mais je veux dire la pureté, la sainteté. Regardez dans l'Ancienne Alliance. On va regarder dans Lévitique, chapitre 16, versets 3 et 4. Regardez la condition qui est imposée à Aaron, le sacrificateur. Alors, ce verset-là, il ne parle pas des bains rituels qu'il devait prendre avant. Il y avait ça aussi, mais bon. On va regarder un autre aspect. Lévitique 16, versets 3 et 4. Alors, Aaron, le sacrificateur, voilà ce qu'il nous est dit. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il se revêtira de la tenue sacrée de lin. Vous savez ce que c'est le lin? C'est cette matière très blanche, très pure. Hein, il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés, donc il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc Aaron, quand il se présentait devant l'Éternel, il devait être propre et en blanc, symbole de la pureté. Voilà. Alors dans la Nouvelle Alliance, on retrouve un petit peu ça. Regardez Apocalypse chapitre 7, verset 9. Notre frère Léo tout à l'heure nous a parlé quand on sera au ciel avec le Seigneur. Il va rayonner, il va tout illuminer, ce sera merveilleux. Et puis nous aussi, on aura une condition qui sera particulière parce qu'on va resplendir aussi. Et le vêtement, il va y être pour quelque chose. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Quand on sera au ciel, les amis, on aura un habit qui sera comme Aaron. Hein. On aura des robes blanches aussi, on sera pur. Alors si vous êtes venu à Christ, vous êtes revêtu, on est déjà revêtu d'un vêtement blanc d'une certaine façon, parce que le Seigneur a payé le prix de nos péchés sur la croix, donc on est déjà purifié de nos péchés, donc on a eu un beau vêtement blanc là qui nous a été donné, parce que nos péchés ont été blanchis dans le sang de l'agneau, donc on a à présent cette tunique en quelque sorte. Hein. Le problème du vêtement blanc, c'est quoi? J'ai mis du blanc ce matin, c'est salissant le blanc, ça salit super vite. C'est très facile de salir. Vous mangez un petit truc, il y a un tout petit point là qui va... Ah ! Vous allez voir que ça. Vous savez, il y a le musée d'art moderne à Nice. C'est toujours de l'art. Il paraît que c'est de l'art. Vous avez une grande toile blanche qui doit faire 5 ou 6 mètres de haut. C'est tout blanc. Et au milieu, vous avez un point noir. Et on voit quoi ? C'est vrai que ça fait réfléchir. D'un certain côté, on se dit... Ah ouais, c'est vrai, on voit que le point noir. On pourrait donner l'image aussi que chez les gens aussi, on voit, quand on se regarde, tu disais Léo, des fois on voit peut-être que le point noir, on voit la paille là dans la poutre de l'œil, on dit, Seigneur, t'as vu de la poutre dans le tien? Mais voilà, le problème avec le vêtement blanc, c'est la petite tache là qui, c'est super salissant le blanc. Alors, on était revêtus de blanc, donc qu'est-ce qu'on va faire de cette tunique? J'imagine qu'on va pas aller se rouler dans la boue avec les cochons maintenant si elle est blanche. On va pas retourner au péché, ce sera aller se rouler dans la boue avec les cochons, voilà. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Non, pas du tout. Est-ce que vous prendriez des choses pour vous salir volontairement? Du chocolat, de la sauce, et tout. Vous ne feriez pas ça. Ben, c'est la même image hein, avec le vêtement de Christ. On ne va pas aller se salir volontairement. Quoi. Après, on peut salir involontairement. Ça, c'est autre chose. C'est la même chose avec le péché. Est-ce qu'on a envie de se ressalir à présent? Regardez ce que nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, qui nous donne un bon conseil, du moins une bonne exhortation. Ecclésiaste 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, nous dit l'Ecclésiaste. Garde ton cœur, garde ton corps, garde ton âme, reste pur, nettoie ta salle, prends-en soin, ce corps qui est le temple de ton Saint-Esprit, prends-en soin. Alors pour les plus jeunes, les plus influençables, peut-être d'entre nous, les ados notamment, on a des ados à la maison. Les amis vont vous dire, eh, viens avec nous. Au samedi soir, on va faire la fête, là. Viens avec nous, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas venir, tu vas pas sortir, tu vas pas boire un verre avec nous, tu vas pas sortir avec nous. Pourquoi tu sors pas avec nous? Viens, on s'amuse. T'es chrétien, bon, c'est pas grave, allez, viens, de toute façon. C'est pas grave, même si tu te salis, c'est pas grave. Il y a la machine à laver, ouais. Il y a des tâches qui s'enlèvent facilement, hein. Vous savez, il y a des tâches, c'est facile, on prend un peu d'eau, ça s'en va. Mais il y en a d'autres, ça part pas. Hein. Et quand on est jeune, on peut faire des erreurs qui peuvent coûter très cher. Hein. Il y en a, ça s'arrête au bout d'une route dans un platane, hein. Un samedi soir. Hein. On a voulu faire la fête, ça s'arrête là. Game over. Fini, terminé. On peut se retrouver parfois à devenir papa ou maman. Ah, c'était pas prévu. Trop jeune, on n'est pas marié, rien. Voilà, on tombe avec ça. Voilà. Il y a des tâches qui sont indélébiles et qui vont pas partir. Donc, faites attention. Voilà. La machine à laver ne marche pas toujours. Donc ne vous laissez pas influencer. Voilà. Prenez soin de votre tunique, elle a un grand prix aux yeux de Dieu pour les plus jeunes ou même les plus âgés d'entre nous. Et puis on peut aussi pécher involontairement, on peut se salir involontairement, ou on peut chuter, on peut se salir quand même. Hein. Mais rassurez-vous, pour ça, on a un avocat auprès du Père. C'est ce que nous dit la Bible dans 1 Jean chapitre 2, verset 1-2. La chemise blanche, on va avoir du mal à la garder blanche tout le temps quand même. Hein. Jean, chapitre 2, verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, ça peut arriver la tache sur la chemise. Hein. Hein, qui n'a jamais fait une tache sur la chemise, on en fera encore. Mais si ça arrive, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Il a payé le prix de nos péchés. On peut lui confesser notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous dit la parole. Alors gardez votre salle propre. Et puis aussi soignez la déco pendant que vous y êtes. C'est le deuxième point. Vous avez un corps qui est temple du Saint-Esprit, c'est votre salle, alors il faut peut-être soigner la déco aussi. Est-ce que vous allez vous faire des tatouages? C'est la mode, hein, les tatouages, il y en a beaucoup. Hein. Avant c'était les garçons, maintenant c'est les filles de plus en plus. Je vais au travail, des jeunes filles, elles ont les bras tatoués, je dis. Alors déjà pour un garçon c'est moche. Pour une fille, ça me laisse un peu perplexe. Et je me dis, quand ils vont être très âgés, qu'ils auront 80 ans et qu'ils auront leur tatouage, bah, pas faire cool, quoi. Enfin bon, après, c'est leur... Mais voilà, pas de tatouage. Est-ce que vous feriez des tags dans la salle? Est-ce que vous prendriez des marqueurs, des bombes de peinture et hop, vous mettez... Non, vous feriez pas ça. Bah, c'est pareil sur le corps. Pourquoi on va le faire dans ces cas-là? Il y a un verset qui est clair là-dessus. Hein. Lévitique 19, 28, si la question du tatouage vous taraude un peu, la Bible est claire, à mon sens. Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Bon, le débat est clos, à mon avis, je crois qu'il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Pas d'incision dans votre chair, ah oui, mais pour un mort, oui, d'accord. Mais vous n'imprimerez point de figure sur vous. Donc, bon, débat clos, à mon avis, chrétien, on n'a pas besoin de se faire de tatouage. Même un beau verset, hein. Seigneur, a priori, c'est pas sa volonté, quoi. Non. Donc la déco, ça passe aussi par les tatouages et tout ça. Hein. Il ne viendrait pas à l'idée de gribouiller la salle. Ça passe aussi par les vêtements, c'est là que je viens aussi. Alors, pourquoi? Parce que c'est l'été à Nice et qu'à Nice, les gens ont chaud, et pas qu'ici. Mais on va sur la plage, des fois, on n'ose plus y aller parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. C'est compliqué, même dans la rue. Donc les vêtements, les amis, pas de tête de mort, évidemment, pas de trucs occultes. Vous savez, les vêtements gothiques, là, ils sont tout en noir. Nous, justement, on a vu que les chrétiens devaient être tout en blanc. Par opposition, on voit que certains aiment bien être tout en noir. On voit quand même bien l'ennemi derrière, hein, qui essaie un peu d'influencer, notamment les plus jeunes. Hein. Est-ce qu'on mettrait du noir partout dans notre salle? Est-ce qu'on mettrait des têtes de mort et tout dans l'église? On le ferait pas, hein. Bon, on ne va pas le faire sur notre corps non plus. Hein. On va faire attention sur les habits qu'on choisit. Et regardez aussi avec moi Deutéronome 22.5 par rapport à la tenue vestimentaire. Ça doit nous faire réfléchir aussi. Le Seigneur pose quelques conditions, il ne dit pas « Attention, pour les femmes, c'est la jupe 23 cm sous le genou, les garçons, c'est le dernier bouton attaché, le truc. » Non, le Seigneur, il n'est pas restrictif comme ça, mais il dit des petites choses quand même. Deutéronome 22.5. « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car c'est quelque chose qui est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Alors, dans l'Église, on n'est pas légaliste ici, hein, pas du tout, hein, on est même plutôt très cool, quoi, on n'est pas légaliste, et je veux vraiment pas apparaître comme un moralisateur en vous disant « Attention, comment il faut s'habiller et tout ». C'est juste un cas de conscience, on doit lire ces versets-là, on doit méditer sur ce que la parole dit, et après on avise, tout nous est permis, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas utile, etc. Donc, il faut lire ces versets en conscience, on ne dicte pas la norme, je ne suis pas en train de dire « Attention, mesdames ». Robe longue jusqu'à la cheville, et les hommes, messieurs, les manches et tout. Non, pas du tout. Tout m'est permis. Hein. Après, la Bible dit certaines choses, il faut peut-être qu'on regarde aussi, parce que c'est vrai qu'à Nice, quand on se promène dans la rue, on se dit quand même des fois. Bon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. Soignons la propreté de la salle, soignons la déco, et puis quand il y a des réparations à faire ici, on les fait, hein, Léo, c'est bien les néons et tout. Quand il y a des règlements dans notre vie, est-ce qu'on fait aussi des réparations à la lumière de la parole de Dieu, quoi? Est-ce que c'est bien la parole qui nous règle nos petits problèmes, hein? Est-ce qu'on prend bien le temps de régler tout ça? Et des réparations à faire, est-ce que je laisse bien Dieu travailler pour réparer tout ça ou pas? On peut se poser des questions, s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas chez moi. Voilà, je peux me poser des questions sur mon corps, sur la sexualité, parce que Paul, il aborde beaucoup ces thèmes-là, on l'a vu, hein, la débauche, etc. Les plus jeunes, des fois, ils se posent des questions sur le corps, et c'est légitime, hein, voilà, c'est de poser la question en disant « Mon corps change, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Je ne comprends rien. Comment ça va être ?» Si vous vous posez des questions, regardez la Bible. N'allez pas sur Internet. Il y a une église aux États-Unis, ils ont loué des grands panneaux sur les autoroutes, et ils ont mis, c'était même pas la même pub pour eux, hein, ils ont juste mis « Il y a certaines réponses qu'on ne trouve pas dans Google, lisez votre Bible. » Voilà, c'était une belle image, ils ont bien travaillé, c'était bien inspiré parce que il y a des réponses qu'on ne trouvera pas dans Google. On va trouver plein de réponses différentes. Vous avez des cas, parfois, vous tapez dans Google, vous allez tomber sur
8 psychologues, ils vont vous donner 8 réponses différentes. Vous n'aurez aucune réponse valable et formelle. Lisez la parole de Dieu, c'est elle qui va vous dire la norme. Et vous avez vu, on peut aller dans des niveaux de détails, tatouage, habillement et tout, ça peut être quand même assez précis quand on regarde. Si on a la volonté de regarder, on va trouver ce que dit la Bible vraiment, quoi. Après, tout m'est permis, hein, mais tout ne me convient pas. Relisez votre Bible. Sinon, demandez à vos parents, les ados aussi. Hein, ils sont là pour ça. Dieu leur a confié ce ministère. C'est une mission que les parents ont, hein, d'aider les enfants, de les guider, etc. Hein. Sinon, vous demandez à quelqu'un, une personne chrétienne de confiance. Ne demandez pas aux amis. Hein, demandez à des personnes chrétiennes de confiance. Hein. Sinon, vous aurez des réponses toujours qui vont varier. La salle est propre. Elle est bien décorée. On a fait les réparations. Tout va bien. Faisons tout pour honorer le corps que Dieu nous a donné si nous appartenons à Christ. Prenons-en soin. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'à travers notre corps, bah le Saint-Esprit peut nous utiliser comme témoignage. Hein. Si on veut témoigner, mais qu'on a des tatouages partout, des piercings, des machins, des trucs, ça va être un peu compliqué. Quoi. Voilà. Si on veut vraiment retranscrire le Seigneur, il faut aussi parfois faire un petit peu attention. Quoi. Et donc, voilà, Paul il dit un petit peu tout ça en substance, et il arrive à la conclusion suivante, verset 20, qu'on a vu tout à l'heure. Verset 20, pardon Marina, 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On voit bien hein, que l'esprit, mais aussi le corps appartiennent à Dieu, donc on doit glorifier le Seigneur à travers ceci. Hein. Pourquoi ? Bah parce qu'on a été rachetés à un grand prix. C'est pas juste comme ça, quoi. Si on est chrétien, on a été racheté à un grand, grand prix, mes amis, un prix dont on n'imagine même pas la valeur. Je pense qu'on ne comprend même pas la valeur, toute la valeur de ce que Dieu a fait pour nous quand il a donné Jésus-Christ sur la croix. Et le Seigneur l'a fait volontairement. Hein. Il n'a pas dit « tu vas faire ça ». Non, le Seigneur, on le voit, on le lit, hein. Il s'est donné volontairement sur la croix. Regardez Romains 5, verset 8. Voilà ce qu'a fait Dieu. Mais Dieu prouvant son amour envers nous, en ce que nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne l'a pas fait parce qu'on était saints. Hein. Il ne l'a pas fait parce que je prends soin de moi, je suis un gentil garçon, je fais bien autour de moi. Non, ça ne compte rien aux yeux de Dieu. Hein. Nos actions, nos œuvres, pour lui, elles ne sont vraiment pas grand-chose. Quoi. Parce qu'il y a du péché par-dessus et ça a l'air à peu près blanc, mais il y a des petits points noirs un peu partout. Quoi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore plein de taches sur la chemise, Christ est mort pour nous, pour nous. Faire l'eau de Javel. Alors si Dieu nous a délivré un si grand prix, bah, Paul nous dit, soyez plus esclaves du péché, abandonnez tout ça, fuyez tout ça, vraiment, et vous roulez plus dans la boue. Quoi. Tout ça, il va falloir le garder propre et pur pour le Seigneur. Alors ça, c'est si on a déjà la chemise qui est blanche, mais on a peut-être que tout le monde ce matin n'a pas encore la chemise blanche, peut-être que certains d'entre vous ce matin n'ont pas encore ce vêtement blanc, alors que faire, comment faire et pourquoi le faire? Trois questions qu'on peut se poser. Que faire, comment faire et pourquoi le faire? On va regarder ce que dit la Bible pour finir. On va regarder dans le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Le prophète Ésaïe, c'est loin. Hein. Ça, c'est pour les Juifs. Hein. Puis c'est pour le temps d'avant. Hein. C'est tellement loin de nous, tout ça. Non, non, pas du tout. C'est pour nous aussi. Ésaïe 64, verset 5. C'est une vérité universelle. C'est pas pour les Juifs, c'est pas pour l'Ancienne Alliance. La Bible fait le constat imparable que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. On est tous comment? On a un vêtement, bah, c'est un vêtement souillé, quoi. Qui? Levez la main ceux qui n'ont jamais péché. Vous pouvez rester, les autres, vous, voilà. Ceux qui ont déjà péché, vous restez, les autres, vous pouvez sortir, parce qu'a priori, bah voilà, Thaïs, au revoir. Non, tu pars, je crois que tu es par terre. Je plaisante. Cette anecdote, j'ai déjà raconté, mais ça se passait sur un marché à Fontainebleau, et il y a un prédicateur qui s'appelle John Mitchell, vous connaissez cette histoire, mais elle est très rigolote. C'était sur un marché à Fontainebleau, il avait un stand biblique, et il avait un quelqu'un en face de lui, et il lui disait que Jésus était mort pour les pécheurs, et ce monsieur lui dit, mais moi, John, j'ai jamais péché. Ah! Divorcé, ses enfants ne lui parlaient plus, tout ça, mais il n'a jamais péché. Et John lui dit, tu as un problème, il faut que tu pêches tout de suite. Maintenant, n'attends plus, parce que Christ est mort pour les pécheurs. Si tu n'as jamais péché, il n'est pas mort pour toi, tu es perdu. Évidemment, voilà, vous avez compris l'image. Je crois que crois qu'il n'a pas été pêché après, il avait déjà fait son lot, donc ça va. Donc la Bible, pourquoi ? Ben voilà, le problème, c'est qu'on a tous un vêtement souillé, les amis, on est tous sales, ma chemise, elle a l'air blanche, elle n'est pas blanche, hein. Pas du tout. Hein. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, toujours dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, qu'est-ce qu'on va faire si le vêtement, il est sale ? Ésaïe, chapitre 1, verset 18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, venez, plaidons, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit, vos péchés, si vos péchés sont comme le cramoisi, avec moi, ils vont devenir blancs comme la neige. Ils vont être purs. Et ça passe par l'Éternel. Hein. Il n'y a pas de la lessive magique. Hein. Ça n'existe pas. Il ne faut pas prendre 3 cuillères de sirop et le problème est réglé. Hein. Non. Il faut passer par l'Éternel. C'est Dieu qui peut purifier ses péchés et les faire devenir blancs comme la neige. Alors, concrètement, comment faire ? Regardez Apocalypse 7, verset 14. Comment ça va se passer ? C'est quoi le chemin ? Qui est la solution ? Apocalypse 7, verset 14. Quelle ordonnance pour ce grand problème ? Ce n'est pas le sirop, ce n'est pas les cachets. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, qui sont ces personnes hein ? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. L'ordonnance à nos maladies, les amis, elle est là. Il faut que notre vêtement sale soit blanchi dans le sang de l'agneau. Il n'y a pas d'autre remède, il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre philosophie, il n'y a pas d'autre formule magique, il n'y a rien. Ça doit passer par le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est le seul chemin, la seule voie, la seule solution que Dieu a choisi dans son plan divin pour le salut des hommes. Ne cherchez pas ailleurs, n'allez pas dans Google, même si vous trouvez peut-être cette réponse-là, mais en tout cas, c'est dans la Bible. Il faut confesser nos péchés à Jésus-Christ et c'est lui qui va blanchir nos fautes. Et quelles sont les promesses alors pour ceux qui vont faire ça ? Apocalypse 22, verset 14. Il y a 2 promesses magnifiques si vous le faites. C'est tout à la fin de la Bible, donc c'est le plan de Dieu final. Le début, c'est la Genèse. Quel livre merveilleux. Lisez la Genèse. Il y a tellement de choses dans la Genèse et on se régale de l'étudier. Et tout à la fin, l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est bien, l'Apocalypse. N'ayez pas peur de lire l'Apocalypse. C'est bien, l'Apocalypse. Et il y a tellement de belles choses à venir. Et là, on lit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Il y a 2 promesses, là. Vous avez lavé votre robe ? Vous voulez laver votre robe ? Ça va vous donner 2 choses. Vous aurez droit à l'arbre de vie. La mort, c'est fini, les amis. C'est fini. L'arbre de vie, c'est lui qui vient guérir. Donc, ça passe par là. C'est le Seigneur qui va vous purifier, vous guérir et vous donner la vie. Elle est promise là, l'arbre de vie. Et deuxièmement, c'est bien la vie éternelle, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Si c'est pour s'ennuyer, bof, quoi. Non. Ça va vous donner le droit d'entrer dans les portes de la ville, la Jérusalem céleste qu'on a vue tout à l'heure. Et là, vous allez être avec le Seigneur durant toute l'éternité, les amis. Et imaginez-vous bien qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour être qu'à côté du Seigneur. Hein. Il n'y a pas un meilleur endroit. Hein. Ce ne sera pas la plage, le bowling, je ne sais pas quoi. Hein. Ce sera la présence du Seigneur en continu. Et là, on va être béni, quoi. Mais il faut laver son vêtement dans le sang de l'agneau. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous devez faire. Je vais vous laisser un petit instant pour réfléchir à tout ça. Je vais juste reprendre la trame du message pour vous redonner le fil rouge, pour que vous ayez le plan en tête. On avait vu, premier point, c'était Paul qui nous disait « Vous avez la liberté en Christ. Tout vous est permis, les amis. Vous êtes libre en Christ. » Attention, tout vous est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, il y a la différence, malgré tout, entre la loi, esclavage, péché, mort, et la grâce, liberté et vie. En tant que chrétien, vous faites partie de la grâce, liberté et vie, donc vous êtes la descendance d'Isaac. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour faire n'importe quoi. Donc, attention, il y a un cadre à respecter. Il ne faut pas en sortir, mais la Bible vous permet plein de choses à faire à l'intérieur. Donc, restez à l'intérieur du cadre. Et l'un des plus grands dangers, disait Paul, hein, il insiste bien à Corinthe, parce que c'est un cas particulier, mais c'est aussi une réflexion pour nous ce matin. Attention à tout ce qui pourrait vous asservir, et notamment la débauche, attention à ça. C'est le mariage avec la sexualité. Quand on sort de ça, hop, on est dans la débauche. Donc, Paul disait attention à ce problème-là. Et on a vu que les seules relations sexuelles autorisées, c'est entre un homme et une femme mariée, et qui ne soient pas de la même famille dans le cas de Corinthe. Et troisièmement, on a vu le corps du Saint-Esprit.
temple du Saint-Esprit. Donc, à nous d'en prendre soin. Je donnais l'image du ménage, de la décoration et du bricolage. Donc, gardons notre corps pur pour le Seigneur. Attention à la déco. Attention aussi, s'il y a des petits problèmes, des réparations à faire, faisons-les avec la parole de Dieu. Et regardez cette dernière promesse dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Et je conclue avec ce verset. C'est un encouragement, mais c'est aussi une exhortation, là encore, que le Seigneur nous donne. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Insondable, tellement riche, et on n'en voit qu'une toute petite partie ce matin. Mais déjà, on voit beaucoup de choses, Seigneur. Tout nous est permis, mais tout ne nous convient pas. Et on a trop souvent à bien aimer ce qui ne nous conviendrait pas, Seigneur. Aide-nous, Père, à ne pas sortir du cadre, à rester à l'intérieur. C'est ce qui est bon pour nous, c'est ce que tu veux pour nous. C'est ce que tu as béni, Seigneur, et aide-nous à ne pas en sortir. Aide-nous, Seigneur, aussi à garder notre tunique blanche et pure, Seigneur. Qu'elle soit pour toi, tu l'as déjà blanchie par le sang de l'agneau. Nous ne voulons pas aller nous ressalir de nouveau. Nous voulons la garder pure, Seigneur, parce que nous sommes invités à une noce. Il ne serait pas convenable d'arriver avec des vêtements souillés, Seigneur. Mais ils sont encore sales, ces vêtements. Seigneur, pardonne nos péchés et nos fautes. Et Seigneur, vraiment blanchis encore nos vêtements ce matin, parce que je crois qu'il n'y a personne d'entre nous qui pourrait dire, moi, depuis que je suis converti, sans faute. Non, Seigneur, bien sûr, nous avons encore chuté. Pardonne-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Aide-nous, nous avons un avocat auprès du Père, Seigneur, et nous te confessons nos fautes vraiment, Seigneur. Pardonne-les, purifie-les. Je veux aussi prier pour ceux qui n'ont pas encore lavé leur tunique. Mais tout simplement, ils n'ont pas encore fait ce pas de venir à toi. Je voudrais vous donner l'occasion ce matin, si vous pensez être dans cette situation, vous dites, c'est vrai que je ne suis pas encore venu au Seigneur, ma tunique, non, elle est vraiment très très sale, et elle n'a jamais été blanchie. Je vais vous proposer, si vous le souhaitez à présent, de lever la main, je prierai pour vous, pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez dire, voilà, je veux m'engager, je veux que le Seigneur Jésus-Christ lave mes péchés, mes fautes, je veux avoir cette tunique blanche, je veux avoir cette promesse d'avoir l'arbre de vie et de pouvoir entrer dans la vie éternelle avec lui. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut faire ce choix ce matin, de s'engager pour le Seigneur, avant de s'engager pour le Seigneur, c'est s'engager pour soi-même, hein, de se dire, je prends la résolution de confesser Jésus-Christ et lui demander vraiment de purifier mes fautes. Est-ce que quelqu'un veut faire cela ce matin? Si vous voulez le faire, vous pouvez lever la main. On va prier pour vous après. Le Seigneur nous dit aussi de confesser nos péchés en secret. Hein. Ici, on est dans le secret de la prière. C'est pas nécessaire d'être trop expressif. Que le Seigneur travaille dans vos cœurs, en tout cas, que le Seigneur fasse son œuvre. Seigneur, je ne sais pas, ce matin, voilà, je suis heureux qu'aucune main se soit levée, parce que c'est aussi peut-être le signe que tous t'appartiennent. Gloire à toi, Seigneur, nous avons été rachetés au prix de ton sang, et que tu en sois béni, Seigneur. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas encore osé faire le pas ce matin, Seigneur, travaille dans leur cœur, parle-leur, Seigneur, nous sommes là aussi pour répondre aux questions, qu'elles n'hésitent pas à venir à nous, Seigneur. Nous t'en prions, glorifie-toi encore et sois béni, béni ton assemblée, que vraiment, Seigneur, cette parole est édifiée nos cœurs. En nom de Jésus-Christ. Amen.